RCF.
Dans les années 80, Axel Brodier, l'œuvre et l'engagement, le travail de Joseph Brzezinski daté des Quart-Monde prennent une tournure politique. Est-ce que c'est une intuition qu'il a très tôt, très vite, cette nécessité de faire un travail au niveau politique, au niveau décisionnel, au niveau des représentations publiques?
Oui, cette idée de faire changer les lois pour intégrer son peuple, il l'a dès les débuts et c'est vraiment aussi une des spécificités d'ATD. Il me semble qu'il y en a deux, du Père Joseph et d'ATD Quart-Monde. C'est connaître la population vraiment à la base. Aucune autre association le fait à ce degré-là. Après, c'est avec ces données-là qu'on va pouvoir faire changer les choses. Et l'idée d'avoir Alvin De Vos, qui est diplomate, d'avoir Geneviève Antonios de Gaulle, qui est la nièce du général et qui chacune œuvre dans les couloirs européens, internationaux pour l'une, les couloirs des ministères français pour l'autre, enfin et d'ailleurs un peu pour les deux, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Emmaüs, on le connaît pour l'appel de 54 de l'abbé Pierre, mais en fait après, va pas vraiment chercher à faire changer les lois. Le Secours catholique non plus, ils sont dans des démarches complètement différentes. À ATD, c'est vraiment intrinsèque. Et c'est vraiment un patient travail, parce qu'au début ça marche pas. Donc par exemple, ils s'invitent dans des réunions, ils y sont même pas invités et paf, à l'audace, ils s'incrustent dans la réunion, et puis en fait personne n'est très compétent sur le sujet, donc ils disent on va prendre le secrétariat de là, si vous voulez on fait le PV de la Réunion, puis petit à petit ils deviennent secrétaires de la Réunion, c'est de l'entrisme carrément, et au niveau européen c'est quasiment du lobbying et dans les instances internationales, avant la lettre. Donc c'est vraiment une vraie originalité, à la fois ce qui se passe complètement sur le terrain et à la fois ce qui se passe au niveau politique. La reconnaissance, elle vient petit à petit. Ils poussent toutes les portes des ministères. Dans les années 70, ils arrivent à rencontrer deux présidents de la République, le président Pompidou en 73 et son ministre des Finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, qui lui-même devient le prochain président de la République et qui va, par exemple, en 77, au 1er janvier, Giscard d'Estaing, qui est donc président de la République, accepte l'invitation d'une famille d'Herblay, donc les familles les plus cassées, les plus déstructurées, chez elles. Donc voilà, les contacts politiques sont établis petit à petit. Mais le vrai levier, paradoxalement, si on essaye de le penser, c'est que ATD Quart-Monde a forgé une connaissance de la pauvreté dans la période des Trente Glorieuses, qui est une période de prospérité économique où finalement ça n'intéressait pas grand monde politiquement. Et arrive le basculement vers ce qu'on pourrait appeler les 30 ou les 40 piteuses, c'est-à-dire la période depuis le milieu des années 70, depuis les chocs pétroliers, où la France et le monde occidental sont entrés de façon plus globale dans le chômage, la précarité de l'emploi et la récession économique avec des crises périodiques. Et là, pour le coup, à partir de cette période-là, l'Europe et les pouvoirs publics français nationaux sont préoccupés de la pauvreté.
Et donc, prêtent une oreille beaucoup plus attentive à l'action et aux propos.
Prêtent une oreille très attentive et puis surtout se demandent comment on va pouvoir traiter. Qu'est-ce que c'est que cette pauvreté? Qu'est-ce qu'il y a comme réponse disponible? Et qui peut répondre en France? Quasiment personne. Et donc, à TD, là, ils ont un boulevard qui s'offre parce qu'ils ont la compétence. Ils ont acquis une connaissance en période de prospérité qui du coup va être en quelque sorte recyclée, mise à profit en période de crise. Et donc dès 1980, le Père Joseph participe au rapport OEX sur la pauvreté précarité. En 82, ils font un rapport au plan, un rapport de mission, le Père Joseph fait un rapport de mission. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que ATD est la première association française à avoir un siège au Conseil économique et social. C'est le Père Joseph, donc en 79. Et ça c'est aussi un levier, le Conseil économique et social.
Il est nommé
à la force du poignet parce qu'ils ont lutté un certain nombre d'années. Et en 79, il décroche le siège au Conseil économique et social. Et c'est le lieu où le Père Joseph va faire son rapport. En 85, il est mandaté pour faire un rapport sur la pauvreté et la précarité. Et c'est le grand rapport de 87, grande pauvreté et précarité économique et sociale, qui pose la définition encore aujourd'hui canonique de la précarité économique et de la précarité sociale et qui fait le lien avec la grande pauvreté qui est pour le coup beaucoup plus le sujet de préoccupation d'ATD que la précarité, mais cet ensemble de pauvreté et de précarité, c'est la condition sociale aujourd'hui des personnes démunies en France.
Donc il est également nommé membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Oui.
Donc il y a tout un ensemble de signaux de reconnaissance.
Oui.
Et de lieux possibles d'action.
Il investit absolument tout ce qu'on lui propose et tout ce qui est intéressant. Donc le plan, le Conseil économique et social, les ministères, les rapports, etc. Pour lui, tous les leviers sont bons. Et ils Ils ont même l'intelligence politique de dire il y a des choses qu'on n'arrive pas à débloquer au niveau national et donc on va court-circuiter le niveau national pour aller au niveau européen. Et toute la stratégie européenne d'investissement des instances du Parlement européen, de la Commission européenne, c'est pour pouvoir court-circuiter le niveau national si besoin, pour pouvoir forcer la France par une instance supérieure et puis pour développer plus largement l'action d'ATD Quart-Monde et les conceptions et la connaissance sur l'ensemble du territoire européen et voire l'international, puisqu'ATD se développe aussi en Afrique dans ces années 70 et surtout 1980.
De tout ça naissent des lois.
Oui. À mon avis, il n'y a aucune autre association en France qui a une telle puissance de changement législatif. Le rapport Wresinski de 87 participe à donner naissance au RMI de 88, qui est, à mon avis, la grande loi tournant dans les politiques françaises de lutte contre la pauvreté. Avant, pour avoir droit aux aides sociales, quand on était démunis, il fallait être en situation de difficulté sanitaire, être handicapé, vieillard, etc. Maintenant, ça devient accessible à tous. Et ATD a milité pour un revenu minimum et l'a même expérimenté très tôt. Dès 84, a fait une expérimentation de revenu minimum. Donc cette loi, c'est ATD Quart-Monde. Et puis après, la plupart des autres lois viendront après le décès d'Hubert Joseph, donc sur les lois qui ont changé la France.
Les bâtiments que vous avez construits, mais tout ça va rester, n'est-ce pas? Alors, naturellement, les igloos vont disparaître, mais même l'église va rester. Eh bien toutes ces merveilleuses choses que nous avons construites vont être les traces, l'existence de votre formidable courage.
Extrait du film « Joseph l'insoumis » de Caroline Glorion avec Jacques Weber dans le rôle du père Joseph.
Voilà, qui sort de la terre comme ça, mais c'est cette cité communautaire dont nous avons rêvé. Eh bien, n'est-ce pas, autrement dit, elle est là et elle doit être un exemple. Mais pour tout le monde, pour tout le pays, pour toute la France et même je dirais, pour tous les pauvres, ici, ça a été finalement la terre natale. Des pauvres, voilà.
Il y a aussi l'instauration de la journée mondiale du refus de la misère. C'est dans la même période?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, 1987, qui est l'année juste avant la mort du père Joseph, c'est vraiment l'année apothéose pour ATD Quart-Monde, parce que c'est l'année de la remise du rapport Wresinski au Conseil économique et social, qui fait date et qui est encore une référence aujourd'hui. Et puis, c'est le grand rassemblement au Trocadéro du 17 octobre, mais qui n'est pas encore la journée mondiale du refus de la misère. Ça le deviendra en 92. Donc, de son vivant, le père Joseph ne l'a pas connu, mais il a connu ce grand rassemblement national et avec une dimension internationale, puisqu'il y a des personnalités internationales et européennes qui y sont présentes ou représentées, et qui est en fait, si on doit la dater, c'est la première journée du refus de la misère, mais elle n'est pas reconnue encore comme journée internationale.
Qui en est à l'initiative ?
Ben c'est ATD Quart-Monde, hein, de toute façon. Pour le coup, le 17 octobre 87, c'est vraiment une mobilisation d'ATD Quart-Monde qui invite d'autres associations à participer, mais c'est vraiment du ATD Quart-Monde pur jus.
Les médias sont là, sont présents, répondent présents.
Oui, relayent, mais après, ils vont relayer de plus en plus. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va crescendo.
Il ne joue jamais vraiment, lui, le jeu des médias?
Si, bah, il essaye de décrocher tout ce qu'il peut. Mais dans ces années-là, il me semble que, par exemple, l'abbé Pierre est beaucoup plus connu des médias que le père Joseph.
Et Geneviève de Gaulle-Antonioz aussi s'exprime quand même assez volontiers au sujet d'ATD, bien sûr.
Ah ben, elle fait tout ce qu'elle peut. Elle s'exprimera encore plus après le décès du père Joseph, quand en quelque sorte elle prendra le relais en tant que présidente et puis elle reprendra le relais au Conseil économique et social. Mais ce n'est pas l'association la plus médiatique. Hein. Quand on pense au Secours catholique ou à Emmaüs, qui vraiment ont des réseaux médiatiques très forts, jouent le rôle de la médiatisation et des campagnes très très fortes, ATD à cette époque-là n'a pas du tout cette approche en termes de grandes campagnes. C'est vraiment à partir de la fin des années 80 que ça va être un levier supplémentaire de mobilisation. C'est une association plus discrète, qui est plus dans la compréhension scientifique, plus dans l'action dans les cabinets, dans les arcanes, dans les couloirs ministériels, qui est dans le lobbying, mais qui est moins dans les esbroufles, la visibilité, etc.
La suite de l'histoire.
Vous avez parlé de la dimension européenne.
Oui.
Ça s'étend au niveau mondial.
Ça s'étend même au niveau mondial, puisque le Père Joseph a le souci, il repère, il voyage beaucoup, il repère des associations qui luttent de leur côté de façon très isolée contre la très grande pauvreté en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et il va monter une association internationale pour fédérer ces petites associations isolées, et en se disant c'est en échangeant les expériences, en mettant en réseau, qu'on va acquérir plus de moyens avec le soutien des organisations internationales si possible. Et donc il y a vraiment aussi une stratégie, mais qui n'est pas une stratégie délibérée d'extension, c'est plutôt une stratégie de mise en réseau des initiatives existantes pour pas qu'elles se sentent isolées, pour échanger les expériences, etc.
À quel moment l'expression quart-monde apparaît-elle ?
Alors, l'expression quart-monde, elle apparaît dans les années 68-69. Il y avait le terme avant de sous-prolétariat qui était déjà apparu dans la première moitié des années 60. Le terme de quart-monde, c'est plutôt dans le courant du moment 68. Alors, on parle du tiers-monde. Alors, c'est intéressant ce terme parce que c'est une double analogie. C'est à la fois une analogie avec le tiers-monde, dont on parle beaucoup, hein, c'est la grande préoccupation du tiers-monde, et puis avec le tiers-état de la Révolution française. On redécouvre le tiers-état. Il y a des cahiers du quatrième ordre, ça s'appelait comme ça, de Fourny de Villiers, qui avait été écrit sous la Révolution française. Et donc, ils reprennent ce terme entre quatrième ordre, tiers-monde, tiers-état, et ils forgent le terme de quart-monde. Donc vraiment, on est dans ces années 67, 68, 69.
On vous retrouve demain pour conclure, Axelle Brodier.
Merci beaucoup.
Merci à vous.